15. Tous les jours, 18h45, 15 minutes d'actu.
15 minutes d'actu.
15 jusqu'à 19h
avec Bintili.
Move!
18h45, jeudi 18 avril, vous écoutez 15, bienvenue chez vous. Je ne sais pas comment vous vous sentez, parce que moi je suis sceptique face au grand discours de Gabriel Attal. Le Premier ministre dénonce une addiction d'une partie des ados à la violence, il veut un sursaut d'autorité. On lui reproche de faire des annonces et de donner peu de concret, on va en parler. Julien vient de garer sa DeLorean, il revient du futur. Demain c'est le début du festival Empower, festival féministe qui évoquera le rejet de la proposition de loi pour la mise en place d'un congé menstruel. Il nous dit que dans 5 ans, ce congé existera. Notre reporter terre du jour, c'est Lou Momèche. Salut Lou.
Salut Bintili.
Tu t'es intéressée aux liens entre les youtubeurs et leur communauté.
Exemple avec le départ d'Inoxtag pour l'Everest qui inquiète ses abonnés.
Et avec notre askipeuse Marion Pépin. Salut Marion.
Salut Bintili.
Focus sur le groupe Michelin. Askip, il se vante de payer ses salariés plus que le SMIC.
Il propose des salaires décents pour que tout le monde vive correctement.
Mais avant de découvrir tout ça, qu'est-ce qui tourne dans les médias?
15.
Ça dit quoi ce 18 avril? Ça dit ça.
Ils veulent se venger, chers de l'autorité.
Gabriel Attal appelle à un sursaut d'autorité, à une mobilisation générale face à la violence de certains mineurs. Il lance une concertation de 8 semaines et annonce déjà quelques pistes. Tous les collégiens seront scolarisés de 8h à 18h en semaine. Recours accru à l'internat pour couper les jeunes des mauvaises fréquentations ou encore des travaux d'intérêt général pour les parents qualifiés de démissionnaires.
Gabriel Attal qui donne 8 semaines pour faire aboutir le travail collectif sur la violence de certains jeunes. Il veut notamment ouvrir le débat sur l'excuse de mineurs, voir s'il est possible d'infléchir le principe qui fait qu'un mineur est sanctionné moins sévèrement qu'un majeur.
Le Premier ministre a enchaîné les annonces.
Je suis favorable à ce que les jeunes qui perturbent le plus gravement les cours se voient sanctionnés sur leur brevet, leur CAP ou leur bac, et qu'une mention soit apposée sur leur dossier Parcoursup lorsqu'ils ont gravement perturbé la vie de l'établissement, pour que cela ait un impact.
Le Premier ministre repropose des travaux d'intérêt général aux parents, des places d'internat pour éloigner les jeunes des quartiers. Il met aussi sur la table de nouvelles peines pour les mineurs, des comparutions immédiates dès 16 ans. Pour en finir, dit-il, avec les professionnels de l'excuse, il prétend briser les tabous.
Gabriel Attal veut aussi s'attaquer aux parents.
Le Premier ministre reprend le thème évoqué après les émeutes de juin dernier, le thème du « tenez vos gosses » comme l'avait appelé Éric Dupond-Moretti, avec des sanctions pour les parents défaillants, notamment des travaux d'intérêt général. Des stages de responsabilisation parentale existent en fait déjà, mais restent exceptionnels à ce jour. Gabriel Attal veut développer ce dispositif, comme il souhaite aussi des amendes, par exemple, pour les parents qui ne se rendent pas aux convocations du juge des enfants avec leur progéniture. Quand il y a des dégâts et indemnisation nécessaire. Les deux parents devraient être priés de payer, pas seulement celui qui a la garde de l'enfant et qui est souvent la mère, seule et débordée, commente le chef du gouvernement.
Être au collège de 8h à 18h, la secrétaire générale du SNES-FSU est sceptique.
C'est toujours mieux que les élèves soient à l'école que dans la rue. Mais ensuite, il faut voir pourquoi faire, avec qui, dans quelles conditions. Et cela, on a jamais eu l'esquisse d'un début de discussion sur le sujet. Ça montre bien quand même qu'on est quand même beaucoup dans des effets d'annonce sans associer les principaux concernés, en l'occurrence les professionnels de l'éducation que nous sommes. Donc là, on nous parle de généralisation de ce dispositif. Mais par exemple, on ne sait même pas comment ça va être financé.
On verra où en sont ces projets dans 8 semaines à l'issue de la concertation.
Ils ont été souvent des lanceurs d'alerte et ils se lassent d'être écoutés poliment, voire d'être instrumentalisés, mais que les actes ne suivent pas sur l'enjeu essentiel du dérèglement climatique. Voilà pourquoi 260 scientifiques signent une tribune dans le journal Le Monde, évoquant la déconnexion du gouvernement, une course de lenteur, écrivent-ils.
Le climatologue Jean Jouzel est bien vénère.
Nous en avons collectivement un peu assez de cette attitude qui consiste à donner l'impression que le gouvernement prend en compte les scientifiques, c'est le cas dans les lois, mais que la réalité s'en éloigne de façon très importante. Alors en France, mais aussi bien sûr à l'échelle planétaire, c'est tout le problème. Il n'y a pas une réelle confiance au moment de l'action entre ce que disent les scientifiques et la réalité dans ces différents domaines. Je dirais réchauffement climatique, protection des océans au sens large, pollution. On est quand même loin du compte, c'est très clair.
Et il critique à demi-mot le président de la République.
Je crois justement que c'est une question d'élan, de souffle largement. Et je crois que c'est ça qui est important. On n'a pas à la tête de l'État une véritable dynamique d'adhésion. On voit bien qu'il y a beaucoup de recul, y compris par rapport au monde agricole, de décisions qui ont été prises par rapport aux mesures environnementales au sens large. C'est vrai aussi au niveau européen. Il n'y a pas dans le débat pour les élections européennes d'aujourd'hui un véritable souffle qui nous permette de dire l'environnement, le climat, la biodiversité, les océans, la pollution sont au cœur aussi des problèmes. Et c'est cela pourtant que on souhaiterait.
On termine avec une bonne nouvelle pour les fans de Pierre Garnier, le gagnant de la Starac.
J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné.
Son premier album sortira le 7 juin, info signée Le Parisien. C'est la veille de la date à Bercy de la tournée de la Starac, date qui sera diffusée en direct sur TF1. Une belle exposition pour la sortie de cet album qui sera accompagnée d'un nouveau single. Pierre a parlé de ce futur album à un média belge il y a quelques jours.
Eh bien ça avance, c'est vrai qu'on a fait quand même pas mal de chansons, je crois que je suis très content. J'aime bien prendre le temps, entre guillemets, même si ça va aller très très vite, faire les choses bien, ça me ressemble d'être là à chaque part de composition, que ce soit la composition, l'écriture, tout ça. Et pour l'instant ce qu'on a, je suis très content et j'ai très hâte de continuer finalement et d'avoir un produit fini qui j'espère va plaire aux gens. Moi j'aime beaucoup la pop américaine, j'ai grandi dans le hard rock et tout quand j'étais petit, et du coup ça va être un peu un mélange de tout ça, remis un peu en français. Et pour l'instant, les mélanges fonctionnent plutôt bien et c'est un truc assez différent et c'est ça qui me plaît.
Pierre, qui est toujours entouré de Daisy et Joseph Kamel, ceux avec qui il a créé son premier titre, ça promet.
Alors la zone, ça dit quoi ?
Move !
15.
Tous les jours, 18h45.
Avec Bintier.
Marion, c'est une annonce du groupe Michelin. L'entreprise spécialiste de pneus veut proposer un salaire décent à tous ses employés partout dans le monde. Elle veut payer ses salariés plus que le SMIC. À Skip, c'est pour faire face à la hausse du coût de la vie.
Oui, le but de Michelin, c'est vraiment de proposer un salaire acceptable à tous ses employés. Un salaire qui doit permettre à une famille de 4 personnes de se nourrir, se loger, étudier, mais aussi épargner et partir en vacances, détaille Floriane Viala. Elle est la directrice rémunération du groupe.
L'idée, c'est que chez Michelin, on se dit qu'on peut faire du business sans forcément réduire sur les coûts salariaux si c'est au détriment vraiment des salariés et de leurs conditions de vie. On ne veut pas avoir des salariés qui sont en survie permanente financièrement, d'où la mise en place de ce salaire décent.
Le salaire minimum en France, c'est 21 203 euros bruts par an, donc un peu moins de 1 400 euros nets par mois. Chez Michelin, le salaire décent proposé, c'est grosso modo 3 fois ça. Ça dépend de la ville. Par exemple, à Clermont-Ferrand, c'est 20% en plus. Et à Paris, le salaire minimum que propose l'entreprise est 2 fois supérieur au SMIC.
Marion, ça veut dire que le SMIC ne suffit plus pour vivre en France ?
En fonction de si on vit seul, en couple, avec des enfants, c'est plus ou moins compliqué de s'en sortir à la fin du mois. Et puis, tout dépend aussi du lieu où on habite, assure Sabrina Kemel, avocate spécialisée en droit du travail.
Un salaire qu'on pourrait appeler un salaire décent ne sera pas le même si vous vivez à Paris ou si vous vivez au fin fond de la Bretagne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est complètement différent. Le coût de la vie à Paris n'est pas le même que le coût de la vie en Vendée. Il est parfaitement normal que des salariés n'aient pas le même salaire selon leur lieu de vie. Il y a une différence de traitement, mais elle est fondée sur des éléments objectifs. Donc ça ne pose pas de difficulté d'un point de vue juridique.
Marion, mettre en place des salaires décents, toutes les entreprises pourraient le faire ?
Selon l'avocate spécialisée en droit du travail, c'est une bonne idée, hein, ces salaires décents, mais c'est impossible à généraliser.
Le message est fort, hein, le message est fort, mais il s'applique aujourd'hui aux salariés Michelin. Toutes les entreprises ne pourront pas doubler le SMIC annuel pour leurs salariés. Parce qu'il y a une réalité économique, toutes les entreprises ne sont pas les mêmes. En fait, quand on fait ce que fait Michelin, cela veut dire que les coûts de production vont augmenter. Soit il y a un impact sur la marge, soit il y a un impact sur les prix de vente. Toute la question, c'est qui va supporter le coût. Ça peut même tuer une entreprise.
Et d'autres entreprises le font déjà, hein, de proposer ces salaires minimums supérieurs au SMIC. C'est le cas du groupe de cosmétiques L'Oréal ou de la marque de sport allemande Puma.
Merci beaucoup Marion pour ce décryptage.
Jusqu'à 19h, 15
minutes d'actu avec Bintili.
Lou, t'es notre reporter terre du jour. Sa dernière vidéo cumule plus de 5 millions de vues en 10 jours. Le youtubeur InoxTag a annoncé son départ pour l'Everest le 6 avril, projet qu'il prépare depuis un an avec un guide de montagne. Dans cette vidéo, il parle des risques de cette ascension, ce qui a créé une vague d'angoisse parmi ses 7 millions d'abonnés sur YouTube. T'as pris ton micro-move pour nous expliquer les liens forts, voire trop forts, entre les influenceurs et leurs fans.
Oui, parce que malgré les nombreux trolls et sur Twitter et TikTok qui imaginaient InoxTag en train de se faire poursuivre par un Yeti ou des scénarios bien plus morbides, il y a des gens qui s'inquiètent réellement pour Inox et livrent leurs angoisses sur le réseau. C'est le cas d'Angelina, 18 ans, qui passe bientôt le bac.
Le fait qu'Inoxtag soit parti, ça me déconcentre un peu. J'arrive pas forcément à me concentrer pour réviser mes cours. Je me demande sans cesse qu'est-ce qui peut lui arriver, s'il va revenir vivant. Je ressens vraiment un vide. Ça a vraiment un impact sur mes émotions et je pensais pas que ça allait m'impacter autant.
Pour canaliser son angoisse, Angelina écrit en cachette des lettres à Inox qu'elle garde pour elle et essaye de se renseigner au max sur les réseaux, une détresse que ses proches ont du mal à comprendre.
Il pense vraiment que je suis folle de m'inquiéter autant pour lui, comme si c'était un membre de ma famille ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, Inoxtag, c'est bien plus que ça. Pour moi, c'est comme si le monde entier il s'effondrait. Sans Inoxtag, en vrai, je me sens perdue. J'ai plus les repères que j'avais avant. En fait, c'est comme si une partie de moi-même, elle avait disparu avec lui sur cette montagne.
Lou, comment on peut expliquer cet attachement à ce youtubeur et plus largement au créateur de contenu ?
Déjà parce que ses plus gros fans, comme Angelina, suivent Inox depuis ses débuts sur YouTube. Ils ressentent une certaine fierté de le voir mener des projets aussi énormes. C'est ce que m'a expliqué Clara Durand, journaliste pour le Figaro Tech et spécialiste des cultures web.
Ce qu'il y a de particulier avec un youtubeur par rapport à un chanteur ou à un acteur, c'est qu'il crée un lien aussi sur d'autres réseaux sociaux que YouTube. Sur Instagram, ils vont partager leur vie. Sur TikTok, ils vont faire par exemple des petits vlogs sur une partie de leur journée, montrer les coulisses de leur projet. En fait, les abonnés ont l'impression de les accompagner tout le temps et de connaître beaucoup plus des aspects de leur vie, de connaître leur vie. Certains d'ailleurs en ont fait leur spécialité. Et la situation, par exemple, c'est Vlog Doute, c'est sur sa vie et c'est ça qui a fait son succès. Et le jour où, en fait, des Vlog Doute dans sa chambre allaient passer au Met Gala à New York, ses abonnés ont vu une forme d'accomplissement et ils ont eu l'impression d'y participer parce qu'ils ont accordé un peu de leur temps pour découvrir sa vie à une époque où elle était peut-être moins connue.
Le problème, Lou, c'est que certains influenceurs jouent avec ce sentiment de proximité.
Oui, alors ça ne semble pas être le cas avec Inoxtag. Lui n'exerce pas d'emprise volontaire sur ses abonnés, mais parfois c'est plus malsain. Par exemple, la tiktokeuse Ophénia. Ses abonnés sont souvent super jeunes, même pré-ados. Elle établit une relation telle avec eux que certains l'appellent maman, suivent tous ses conseils, voire lui offrent des cadeaux sur TikTok. Certains de ses comportements peuvent s'apparenter à des dérives sectaires, selon le député socialiste Arthur Delaporte.
Des fois, c'est des enfants qui subissent du harcèlement, etc., et qui sont en recherche de repères, et elle va fournir des repères, elle va donner un cadre, mais ce cadre, il peut aussi être un peu désocialisant. C'est-à-dire qu'elle va prendre le petit déjeuner avec des membres de sa communauté, elle va parfois leur donner des conseils qui ne sont pas de s'adresser aux adultes de référence, par exemple, au CPE, dans les collèges. Le risque, c'est que cette relation, entre guillemets, de proximité, qui est en fait surtout une relation à distance et qui n'est pas du tout une relation personnelle, elle coupe l'enfant de son univers social habituel, elle l'isole et elle contribue pas forcément à l'aider à aller mieux, mais au contraire à ce que ce processus de désocialisation s'amplifie.
Le but d'Arthur Delaporte, c'est pas de pointer spécifiquement Ophénia, mais les relations de dépendance affective que peuvent créer volontairement certains influenceurs. Contre ça, il préconise plus de prévention dans les collèges et lycées, expliquer qu'on ne devient pas ami avec n'importe qui sur les réseaux, mais aussi de lutter contre le harcèlement scolaire pour éviter l'isolement des plus jeunes.
Merci beaucoup Lou pour ce reportage.
Move.
Du lundi au vendredi, 18h45-19h.
15 minutes d'actu avec Bintili.
Julien vient de garer sa DeLorean, il revient du futur. Demain, c'est le début du festival Empower. Pendant 3 jours, ce festival au féminin réunit des femmes politiques, des artistes, journalistes, autrices. Elles vont parler politique, économie, sport, écologie ou encore sexualité, mais avec une vision féministe. Autre thème abordé, la santé, alors que la proposition de loi pour la mise en place d'un congé menstruel a été rejetée par les sénateurs. Julien, tu as 5 ans d'avance sur nous et tu nous dis que ce congé pour règles douloureuses existe enfin.
On est le 18 avril 2029. Après plusieurs mois de débats et d'échanges à l'Assemblée nationale, le gouvernement socialiste a réussi à faire approuver sa loi, le congé menstruel pour toutes les femmes. Désormais, en cas de règles douloureuses ou d'endométriose, chaque femme peut bénéficier de 2 jours de congé sans passer par le médecin pour avoir un certificat médical. C'était la mesure phare du nouveau ministre de la Santé, Karim Bouamrane, qui à l'époque était le maire PS de Saint-Ouen, la première commune en France à avoir mis en place ce congé menstruel. C'était en février 2023, avant même la proposition de loi de l'ancien gouvernement. Et avec cette loi, les femmes peuvent choisir soit rester à domicile et faire du télétravail, soit prendre ces 2 jours de congé, qui sont bien évidemment payés. Bon, aujourd'hui, les sénateurs n'ont pas approuvé la proposition de loi des députés socialistes. Le gouvernement n'y est pas favorable non plus. Pour se défendre, il évoque de possibles discriminations à l'embauche. Ce sujet sera bien sûr abordé lors des nombreuses tables rondes du festival, des espaces d'échange avec des économistes, des politiques aussi, comme Marie Toussaint, la tête de liste des Verts pour les élections européennes. Il y aura aussi des conférences animées par des influenceuses comme My Better Self ou MC Danse pour le Climat, des concerts ou encore des rencontres littéraires. L'objectif, rappelle les organisateurs, agir tous ensemble pour un monde féministe.
Merci beaucoup Julien, hâte de découvrir ton futur voyage. En attendant, je vous laisse avec Anna Toumazov pour Tunnel. Merci à Pierre Ramé pour la réalisation de cette émission et à demain pour un nouvel épisode de 15.